Nouvelle émission de Christian Cailhol, La Bougeotte. Aujourd'hui, où va-t-il nous amener dans une région préservée, je présume, au cœur d'une France méconnue, pleine de châteaux? Bonjour Christian.
Et bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, l'indice vers la Loire, le titre de ta vidéo qu'on peut retrouver sur ton site, c'est « Offrez-vous le Forez ». Tu vas pouvoir développer, nous en dire un peu plus.
Comme tu dis, le titre de ma vidéo, c'est « Offrez-vous le Forez ». Alors juste, je reprends sur ce que tu viens de dire. Pendant longtemps, j'ai fait comme toi, j'ai prononcé le Forez.
Ah, et alors on dit le Forez.
On dit le Forez. Alors je vais essayer pendant l'émission de ne pas faire la faute moi aussi, parce que effectivement, j'ai tendance à dire le Forez. Un coin de France un peu inconnu, surprenant. J'ai eu envie d'aller le découvrir parce que peu de gens savent même où c'est. Peut-être on se doute, c'est du côté de Saint-Étienne. Alors d'un côté, on a les monts du Lyonnais. Et de l'autre côté, on a donc ceux du Forez. Et au centre, c'est une énorme plaine de défondement parcourue par la Loire. C'est pour ça que je dis, je vous amène voir les châteaux de la Loire. Mais ce n'est pas les châteaux que vous connaissez du Maine-et-Loire ou du Loir-et-Cher. Ou ainsi de suite. Ce sont les châteaux du début de la Loire, presque la Haute-Loire. Bien sûr, puisque c'est limitrophe. Et c'est une région, en fait, c'est une région de transition entre Rhône-Alpes, Auvergne. Et ici, donc cette plaine de fondement, et la moindre colline de part et d'autre porte les vestiges de châteaux ou de prieurés, et chaque tupée offre des panoramas à perte de vue. Donc voilà où je vous emmène.
Voilà, rien à voir avec les châteaux de la Loire qu'on imagine, les gros châteaux.
Non, c'est pas Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau, c'est autre chose, c'est des noms de châteaux que vous connaissez, certains connaissent bien sûr, j'espère, mais tout au moins j'espère que ça donnera envie d'aller voir, parce que, et puis aller voir ma vidéo, c'est très riche aussi, très varié, et moi j'y ai passé une semaine. En fin d'hiver, début de printemps, il faisait pas le même. Oui, c'était l'hiver, c'était au mois de février. On a même eu de la neige. Et puis, ce qui est marrant, c'est que cette plaine s'élève d'un seul coup. Hein. Vous passez d'une altitude, je sais pas exactement l'altitude, mais c'est relativement bas, et vous montez sur ces collines qui sont à 1600 mètres, puisque vous verrez sur ma vidéo, je passe à la station de ski, 1600 mètres altitude. Et où même j'ai eu un accrochage de tôle froissé avec la voiture, parce que là, j'ai pris une petite route. Alors, vous verrez un des plus beaux villages de France, qui s'appelle Montrachet, ou Montrachet, je ne sais pas comment on le prononce. Pour y accéder, alors c'est un point de vue magnifique sur la vallée de la Loire. Il paraît que par temps clair, on voit le Mont Blanc et on aperçoit le Mézenc. Pour y monter, une petite route étroite avec 50 cm de neige de part et d'autre. Pour se croiser, c'est impossible. Voilà, on a froissé les tôles. Une petite parenthèse, il a fallu faire un petit constat. Mais donc, un des plus beaux villages de France. Et puis, vous avez des points de vue un peu partout. Vous avez par exemple à Chandieu une Madone, une Vierge colossale qui est sur un promontoire et elle semble protéger la plaine. Elle va de Saint-Étienne jusqu'à Roanne, ça s'élève là autour de Vignes et puis de nombreux châteaux féodaux qui eux aussi surveillent cette plaine. Alors le château de Rochebaron, vous le verrez sur ma vidéo.
Pour rappel, la vidéo, on la retrouve dans
La vidéo sur mon site Rando VTT Vidéo. Mmh. Voilà. Ou sur le site Radio Galaxy, bien sûr, voilà. Aussi, en lien.
Alors,
donc,
vas-y.
Le château de Rochebaron, avec son donjon, sa tour triangulaire et sa triple ancienne enceinte fortifiée du XIe, mais pas loin de là, vous avez le château de Couzan, face à une citadelle, la citadelle de Sainte-Anne à Marcilly, et avec lui aussi son donjon, sa double enceinte, et qui a subi les assauts des routiers pendant la guerre de Cent Ans. Et puis finalement détruit par Richelieu. Et actuellement, c'est une des dernières images de ma vidéo. Actuellement, c'est une volerie d'aigle qui l'occupe. Et en me présentant, en parlant, ils m'ont accepté de me laisser faire voler le drone à l'intérieur de leur volerie, puisqu'on était en période hors tourisme, puisque mois de février. Et un point de vue magnifique sur toute la plaine. Vous avez le château de Montrond-les-Bains, presque circulaire, on le voit très bien sur la vidéo, épousant la forme du mont, ceinturé par un double rempart flanqué de tours. Le château des Salois, alors lui, il domine la Loire complètement. Il est construit sur un lieu naturellement fortifié, un ancien oppidum gaulois, et avec un point de vue remarquable sur la vallée, mais surtout une formidable ascendance sur le château de Grandjean du XIIe, qui surveillait les gorges de la Loire. Et à l'époque, c'était un axe de passage stratégique. Actuellement, il est sur une île, depuis 1957, depuis le barrage de Grandjean. On le voit, ce barrage, sur ma vidéo. Ouais. Ça crache, c'est énorme.
C'est énorme, ouais. Il faut le voir. Ouais.
Il faut le voir. Donc, donc, ce barrage a formé un lac. Et le château de Grandjean est sur une île. Ouais. Il est dominé, donc, par ce que je viens de dire, par le château des Salois.
Ouais, c'est très sympa à voir, effectivement, sur la vidéo. C'est original.
Et il y a un autre château sur une île, en fait, il est relié par un pont, une presqu'île, quoi. C'est le château emblématique de La Roche, qui lui est du XIIIe. C'était un poste de guet, un point de passage, une ancienne maison forte du XIIIe. Il est entouré d'eau, lui, depuis 1983, par la mise en eau d'un barrage. Vu de drone, il est magnifique. Alors, petite histoire du forêt. Au second siècle avant Jésus-Christ, c'est un territoire d'un peuple celte. Les Ségusiaves, ils se sont installés entre les Éduins au nord, les Éduins, on en a parlé dans le Morvan, il n'y a pas très longtemps, les Allobroges au sud-est et les Arvernes à l'ouest. Au 11e et au 12e, l'unité du forêt reste à faire. En l'absence de pouvoir fort, ce sont les abbayes de Cluny, on en a déjà parlé, de la Chaise de Dieu, et de Conques, qui vont lancer un programme de construction environ d'une soixantaine de prieurés qui forment un maillage politico-religieux. Et ces prieurés, ils ont joué un rôle actif dans la mise en valeur agricole du territoire. Drainage, création de canaux, d'étangs, sylviculture, défrichage, création d'estives. Tout ça, c'est les prieurés qui ont fait ce travail. Sinon, le forêt ne serait pas dans l'état que l'on connaît maintenant. Par exemple, le prieuré de Saint-Romain-le-Puy, j'ai passé une semaine dans un gîte juste en dessous. Ce prieuré, vous le verrez, c'est l'aquarelle de Nadine, et vous verrez les images de ce prieuré. Alors, c'est un édifice funéraire du 5e, avec une nef du 10e et un chœur du 11e. Elle est ornée à l'intérieur de pans de fresques du 10e au 14e siècle. C'est important, c'est riche, c'est vieux. Et c'est pas toujours ouvert. Et moi, j'ai eu la chance de m'y trouver. Le jour qu'il fallait, au bon moment, il y avait les adhérents de l'association en train de préparer quelque chose. La porte était ouverte, on a discuté avec eux, on a sympathisé. Et j'ai pu faire les images. Et vous verrez sur ma vidéo des images de ces fresques.
D'accord.
Ça dure qu'un instant, mais c'est du 11e quand même. Hein. Elles sont bien sûr polychromes. Alors, au 13e et au 14e siècle, Le forêt est limitrophe avec l'Auvergne, donc les Anglais, au cours de la guerre de Cent Ans, et les mercenaires en manque de soldes n'hésitaient pas de piller les villages. Alors aussi, ça explique qu'à cette période, de nombreuses cités se protègent en élevant des remparts, et que Montbrison, que personne ne connaît, mais vous chercherez maintenant, Montbrison devient la ville principale, et alors qu'actuellement c'est Saint-Étienne. Il faut aller voir à Montbrison, justement, la salle héraldique, la Diana. C'est une charpente de bateau retourné. Elle est décorée par plusieurs centaines de blasons, peints à même le plafond. Et à Montbrison, un trésor a été découvert en 1885. Il y est exposé. Il se compose d'un chaudron de cuivre contenant des pièces gallo-romaines. Ouais. Intéressant.
Ouais. C'est oui.
Au 17e, le forêt devient célèbre partout en Europe. Pourquoi ? Surtout chez les lettrés. Parce que Honoré d'Urfé, que personne ne connaît, c'est pour ça que je le cite, il écrit Lastré, que personne ne connaît non plus.
On découvre, là.
On découvre, en 1607. Mais par contre, on ne le sait pas, mais c'est un roman d'amour, fleuve, de plus de 5000 pages. Une œuvre majeure dans la littérature française, traduite en plusieurs langues et lue dans toutes les cours d'Europe à cette époque. Pour plus de renseignements, allez au château La Bâtie d'Urfé.
D'accord.
Au sud du forêt, on passe d'une autre époque, au sud du forêt, le charbon est présent, je vous raconte ça, vous ne verrez pas d'image, je ne suis pas allé filmer des mines ou au musée de la mine, tout ça, mais par contre ça va expliquer la deuxième partie, vous allez voir. Donc en Europe, c'est unique, les affleurements ils sont nombreux, en couche épaisse, ils ne sont pas profonds, et on peut les utiliser immédiatement, et enfin des premiers bassins houillés exploités en France, et un principal site d'extraction. Certaines communs connus depuis les Gaulois et les Romains, mais qui ne semblent pas vraiment l'avoir utilisé. Par contre, l'exploitation est attestée au Moyen-Âge. En 1827, le forêt est la première région à être équipée de voies ferrées. Première ligne en France, c'est Saint-Étienne-Andrézieux, une vingtaine de kilomètres. Ça transportait le charbon, qui ensuite était chargé dans des bateaux rudimentaires, construits pour un seul voyage, on les appelait les Rambertes. La ligne, elle est prolongée un peu plus tard jusqu'à Roanne. Ça traversait absolument tout le Forez. À partir de Roanne, ce sont des gabarres qui prenaient le relais et qui descendaient la Loire. Cette production explique la présence dans cette région de nombreux armuriers de quincaillers et la production plus tard, la production d'acier.
D'accord.
Alors, la deuxième histoire, c'est celle qui va suivre. Et là, j'ai quelques images. Vous verrez sur ma vidéo des images que j'ai faites au Musée des Arts et de l'Industrie de Saint-Étienne. Pour quelle raison cette production d'acier va expliquer la deuxième histoire? Eh bien, la transition, c'est que je vais vous parler d'un homme qui a marqué cette région de Saint-Étienne de la fin du 19e jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme, c'est Étienne Mimard. Personne ne connaît. Maintenant, vous allez le connaître parce que je vais vous parler de lui. Vous allez voir.
Bien, chef. Bonjour, chef.
Alors, les dates d'Étienne Mimard, c'est 1862-1944. Alors que l'industrie métallière connaissait des difficultés en 1885, il crée une petite affaire d'armes. Et il va connaître sous la Troisième République un essor considérable, la production d'armes, grâce à la libération du commerce des armes, en particulier de la chasse. Donc il produit beaucoup de fusils. Mmh. Il se diversifie en ajoutant la production de cycles, les fameuses hirondelles,
d'accord,
qui équipaient la police, et puis les machines à coudre et à écrire. Et puis d'autres articles à la vente, pour beaucoup qui sont fabriqués par les entreprises sous-traitantes de la région. Les ateliers sont à la pointe du progrès, avec l'éclairage, les machines d'outils électriques. Et au niveau de la fabrication, chaque pièce est interchangeable, aussi bien sur les armes que sur les cycles. À la fin du 19e siècle, il emploie 1000 ouvriers. Et en 1910, ça devient la manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne, que beaucoup de personnes ont connu, Manufrance.
Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord.
C'est pas fini. Il inonde la France avec les fameux catalogues d'articles.
Oui.
En vente avec un seul magasin, le seul magasin Manufrance Saint-Étienne à Saint-Étienne, avec une livraison rapide. C'est une véritable encyclopédie, ce bouquin.
Oui, mais je le vois.
Tu l'as connu, toi aussi. Hein.
Je le vois.
Une Bible, une caverne d'Ali Baba qui faisait rêver. Des centaines de produits sont classés, hiérarchisés pour faciliter le choix. Il crée ainsi une vente par correspondance à domicile, à grande échelle. En 1923, l'entreprise reçoit entre 6 000 et 10 000 commandes qui sont préparées et expédiées le jour même.
C'est énorme. Hein.
1923.
Ouais.
Voilà. Hein.
Et on était vraiment en avance sur notre temps,
oui,
en fait.
Amazon.
Ouais, voilà, tout à fait.
Un peu plus tard, il a l'idée d'imprimer un deuxième bouquin qui s'appelle...
La manufacture de...
Non.
Non.
Ah bon. Je vais te le dire, mais tu vas me dire... Ah oui, le chasseur français.
Ah ben oui.
Ben oui, mais c'est bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Et voilà. Tiré à 500 000 exemplaires par mois. Là encore, que de bons souvenirs, ce bouquin. Des images en couleur, des dessins. Et même sans être chasseur, on ne pouvait que l'aimer. Car on apprenait toujours quelque chose. Et puis, il n'y avait pas de catalogue de moto, ou de bagnole, ou de VTT, ou de je sais quoi. Et alors, les fusils, les objets d'art, eh ben, ça nous faisait rêver. Alors, pour cet homme... Il était adepte d'un idéal socialisme. Il aime favoriser l'ascension des collaborateurs d'origine modeste. Bien avant la Front populaire, les ouvriers bénéficient d'une caisse de secours, de soins médicaux, pharmaceutiques, gratuits, une sorte de caisse d'assurance maladie, et de congés payés. À l'usine, il y a une fanfare, une chorale, une compagnie dramatique qui lui donne une dimension culturelle. La semaine de travail est de 58 heures, alors que partout ailleurs, il n'est pas rare de trouver 70 et 72 heures. Il croit éminemment au progrès par l'instruction et il s'implique dans le développement d'écoles d'apprentissage et professionnels. Les enfants du personnel obtiennent des bourses d'études. Et en 1936, l'entreprise emploie 5000 personnes. Alors, il y a un petit truc qui me laisse un goût quand même bizarre. Est-ce qu'on peut parler de paternalisme? Où s'arrête le social? Et où commence le paternalisme? Le paternalisme, c'est l'attitude du chef d'entreprise qui, de sa seule initiative, octroie à son personnel des avantages sociaux dans le but d'affirmer son autorité. Alors c'est un peu insupportable lorsque l'employeur il tend à organiser tout dans la vie du personnel, en dehors des heures de travail, spectacles d'usine, sociétés sportives d'usine, maternité d'usine. Là, et plus tard, Manufrance qui sera le partenaire principal des Verts, l'association sportive de Saint-Étienne. Ouais. Alors, à vous de peser le pour et le contre. Alors, attention, personnage, hein, pas plus intimidé par l'occupant que par les grévistes. Il refuse de travailler pour l'occupant en 1940. Il s'oppose au gouvernement, qu'il traite dictature. Il se fait même emprisonner. Il refuse de communiquer ou d'intervenir sur son personnel pour le faire partir en Allemagne. Il refuse de livrer en 1944 les spécialistes réclamés par les Allemands. Étienne Mimard décède en 1944 en laissant à la ville la majorité du capital. Il aura été l'homme de Manu France, pionnier de la vente par correspondance. Hélas, la crise des années 70 fragilise considérablement l'entreprise. La demande intérieure diminue, la concurrence extérieure qui bénéficie d'une main-d'œuvre peu coûteuse devient de plus en plus forte. Et finalement, en 1980, la fermeture retentissante est prononcée, créant un choc à Saint-Étienne, mais aussi dans tout l'Hexagone. Et on s'en souvient, et personne ne l'a oublié. Un grand moment.
C'est énorme,
ouais. Ouais, je suis content d'avoir parlé de ça, parce que, voilà, faut pas, on ne l'oublie pas. Alors, dans un tout autre registre, vous allez voir sur mes images, des arbres tout tordus. On appelle ça les pins boulanges, les pins de boulanges. Ce sont des pins sylvestres, qu'on nomme aussi les garolles, et qui servaient à fournir des fagots de petits bois pour alimenter les fours à pain. Alors, ils sont souvent difformes et d'aspect tourmenté parce que la taille voulait qu'ils restent comme ça. C'est l'homme qui a contraint ces arbres étêtés à pousser dans toutes les directions en donnant de nombreuses petites branches à faible hauteur. Et ce sont des sortes de bonsaïs géants. Et chaque ferme en possédait environ un hectare. Ils livraient traditionnellement au boulanger et ça apportait une source de revenus complémentaires. Cette tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui n'était plus pratiquée, et ces arbres auraient disparu si l'ONF n'en avait planté environ il y a une vingtaine d'années plusieurs centaines d'hectares. Actuellement, ils sont en arbre d'être taillés pour relever le flambeau. Hélas, j'ai bien peur que personne ne va aller les tailler. Autre tradition du forêt, c'est la tradition des sieurs de long. Ils étaient pratiquement tous originaires de régions pauvres à vocation forestière. Et ces hommes allaient à la scie non pas par vocation mais par nécessité. Et ici dans le forêt, surtout en altitude près du sommet, cette migration à la scie sur l'épaule pouvait commencer à la Saint-Michel, c'est-à-dire fin septembre, et se terminer à la Saint-Jean, c'est-à-dire fin juin. Fin septembre, les seigles étaient semés, les femmes seules suffisaient à soigner les bêtes. Les hivers froids, neigeux, interminables auraient contraint les hommes à une longue période d'inactivité et puis c'est une bouche de moins à nourrir. Donc la grande pauvreté et le surpeuplement encourageaient la migration soit vers la montagne de l'Allure ou soit vers le Ventoux. À plusieurs, ils se regroupaient, ils bâtissaient une cabane de bois, de terre, une tanière sur le lieu même du chantier. Un simple trou faisait office de cheminée, le mobilier très simple, ils le fabriquaient. Dès l'adolescence, et par imitation, on était scieurs de père en fils. Les gains, même maudits, apportaient encouragement à l'exode. On leur doit les étés des mines, les traverses de chemin de fer, les mérins pour les tonneaux. Ils étaient capables de construire un hangar, une barque. Souvent, ces hommes, ils ont fini par rester où ils étaient partis et à s'installer, ou comme marchands de bois ou marchands de vin. Voilà la petite histoire du forêt. Un dernier mot, vous verrez des orgues basaltiques enneigés qui dominent un lac. Et c'est l'ancien volcan du mont Montpeloux, qui date de 18 millions d'années. C'est un cratère rempli de lave cristallisée sous forme de prismes hexagonaux, qui était exploité pour le basalte, sous forme de carrière, et qui est maintenant désaffecté. Il reste ces belles orgues d'une hauteur de 60 mètres. Une belle leçon de géologie. Et puis aussi, vous verrez mon drone passer au-dessus d'orgues basaltiques. C'est pas loin de là. C'est le puits de Chavannes. Pareil, un cercle géologique majeur. Une randonnée balisée en fait le tour et je fais passer mon drone au-dessus de ces prismes basaltiques et donc une petite randonnée que je vous propose de faire à pied. Vous verrez aussi les images de ma randonnée en VTT.
Ouais, il y en a pas mal, c'est très sympa.
C'est vrai, au soleil mais glagla, hein.
Oui.
Ça part de bas, de la vallée de la Loire, ça monte sur les hauteurs, il faut de bonnes cuisses.
On rencontre la neige.
Oui, on rencontre la neige. Donc c'est une randonnée faite au mois de février. Mais que du bonheur. Ce que je retiens de tout ça, c'est la découverte d'une région authentique, peu connue, et qui déborde d'histoire et qui possède vraiment beaucoup de richesses variées. Hors des sentiers battus, nombreux châteaux, des belvédères, des panoramas sublimes. Et pour finir,
La fameuse
aquarelle de Nadine, qui représente le prieuré de Saint-Romain-le-Puy. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les fresques du Rosième et tout ça. Magnifique, comme d'habitude, belle aquarelle de Nadine.
Ouais. Qu'on remercie d'ailleurs chaque fois parce que ça clôture bien la vidéo.
Voilà, merci aussi pour elle. Et le mois prochain, je vous ferai découvrir de vastes étendues.
Aïe, aïe, aïe.
Entre les monts du Cantal et l'Aubrac.
Mon Dieu.
C'est vachement bien.
C'est pas le titre à vidéo, ça.
Soyez patient. En attendant, bougez.
Mais bougez
en France. Merci. À bientôt.
Merci, Christian.